grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse en direct ou en podcast. Et ce matin, nous attendons toutes vos questions sur l'hypertension, un trouble cardiovasculaire qui peut tuer à petit feu si l'on ne s'en préoccupe pas. Il s'agit même d'un tueur silencieux selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Ce syndrome touche près d'un tiers des adultes et la moitié des personnes âgées. Nous verrons dans quelles conditions survient cette pression trop élevée dans le sang, quels sont les symptômes, comment s'établit le diagnostic, pourquoi peut-on être hypertendu aux États-Unis et pas en France, quel est l'impact de l'effet blouse blanche, d'un stress ponctuel ou d'un effort physique sur la mesure de la pression artérielle, quelles sont les conséquences délétères d'une hypertension, quels sont les sujets à risque, quelles sont les bonnes mesures diététiques à prendre, faut-il vraiment bannir la salière de sa cuisine, quels sont les médicaments préconisés, quelles sont les contre-indications, est-il vraiment possible de prévenir l'hypertension, bref, est-elle une fatalité? Avec nous deux cardiologues pour répondre à toutes vos questions, le professeur Jean-Noël Fabien et le docteur Fabien Guèze, 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main vous fasse. Avec nous également Alexandra Combes, journaliste dans l'émission Enquête de santé sur France 5, notre complice ce matin, et bien sûr Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle. Bonjour François Lelore.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre et je suis ravi de vous accueillir pour la première fois dans Les Choses Vues, assuré par notre ami Christophe André. Il s'agira de tension dans votre chronique.
Voilà.
Et d'anxiété.
Absolument.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rébé.
Bonjour professeur Jean-Noël Fabiani.
Bonjour.
Vous dirigez le département de chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou et vous enseignez à l'université Paris Descartes et vous avez publié aux Arènes l'incroyable histoire de la médecine en bande dessinée. Bonjour docteur Fabien Guèze.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue et vous avez publié en poche chez J'ai lu comment avoir une crise cardiaque. Titre ironique évidemment hein, Fabien Guèze. Hein.
Évidemment.
Voilà. Pour la transparence du débat, quels sont vos liens éventuels présents ou passés avec l'industrie pharmaceutique?
Aucun en ce qui me concerne.
Et vous Fabien Guèze?
Aucun depuis quelques années. Ouais.
Bonjour Alexandra Combes.
Bonjour.
Vous avez réalisé le documentaire Hypertension, crime de sang qui sera diffusé ce soir dans Enquête de santé sur France 5. Jean-Noël Fabiani, qu'est-ce que la pression artérielle et comment fonctionne la pompe cardiaque?
Alors la pompe cardiaque, comme vous le savez tous, je pense, c'est le cœur qui se contracte à peu près 70 fois par minute et le ventricule gauche, en se contractant, crée une pression qui va éjecter normalement, sans aucun obstacle, au niveau de l'aorte et de toutes les artères et c'est ce qui crée la pression dite systolique, c'est-à-dire le chiffre le plus élevé. Et puis, quand elle se relâche, quand le ventricule se relâche, eh bien, il n'y a plus de pression. C'est ce qu'on appelle la diastole. Et là, il y a une pression résiduelle qui se trouve dans l'aorte. Et dans l'aorte, à ce moment-là, c'est le chiffre bas de la pression qui s'appelle la diastolique.
Fabien Guèze, pourquoi une tension artérielle normale est-elle essentielle au bon fonctionnement des organes vitaux? Pourquoi est-ce que c'est si important pour le bien-être et la santé?
Eh bien, parce que c'est le cœur, la pompe, comme le disait Jean-Noël Fabiani, le cœur qui amène le sang et tous les éléments figurés, les vitamines, les globules rouges qui vont oxygéner donc tous les organes jusqu'aux orteils. Donc le cœur a besoin d'être très puissant, en particulier le ventricule gauche. Hein. On sait que c'est le ventricule gauche qui fait 80% du travail du cœur puisqu'il envoie le sang jusqu'aux orteils alors que le ventricule droit l'envoie jusqu'au poumon qui est à 3 cm.
À quel moment parle-t-on d'hypertension artérielle?
Alors ça c'est toute une discussion parce que pendant très longtemps on a considéré que le chiffre le plus élevé ne devait pas dépasser 14 ou 140 mm de mercure. Et puis les Américains sont revenus un peu sur ce chiffre pour donner 130, c'est-à-dire 13 de chiffres supérieurs. Alors c'est relativement important qu'on prenne l'un ou l'autre parce que ça fait quand même des millions de personnes qui sont entre 13 et 14 et sont-ils hypertendus ou ne sont-ils pas hypertendus? Alors là c'est toute la finesse je pense du médecin. C'est un praticien qui doit juger les choses en fonction de l'âge, en particulier de son patient.
Alexandra Combes, vous racontez l'histoire de l'hypertension dans votre reportage.
Oui, en effet, l'histoire de l'hypertension, elle commence avec la découverte en fait de la pression artérielle. Et parce qu'en fait, il a fallu déjà mesurer la pression artérielle pour savoir si elle était trop haute ou pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'idée d'un seuil, définir un seuil. En fait, c'est un médecin américain qui a, pour le premier, au tout début du XXe siècle, qui a dit, voilà, il y a un seuil au-dessus duquel il y a un risque de mortalité, un lien entre une pression artérielle élevée et un risque de mortalité. Et c'était un médecin américain qui dirigeait une grande compagnie d'assurance américaine, et du coup, ça n'était pas en fait dans un but médical au nom de la science, mais plutôt pour un intérêt financier. Parce qu'au-dessus de 15, il disait qu'en fait, ça ne valait pas le coup d'assurer une personne.
Vous confirmez, Jean-Noël Fabiani ?
Alors, je confirme bien sûr, mais il faut quand même se rendre compte que pendant un temps très important, on a pensé que c'était les artères qui se contractaient elles-mêmes. Avant William Harvey, qui démontre la circulation sanguine, on croyait que les artères étaient elles-mêmes pulsatiles. Il a fallu que ce soit un révérend de Twickenham qui le premier a mesuré la pression dans une artère carotide, celle de sa jument, et il a mis un tube en verre dans la carotide de sa jument. Il a dit voilà, il y a une pression dans les artères. Et puis l'air de rien, celui qui a tout mesuré, c'est un Français, c'est Jules Marais, qui a été celui qui a tout mesuré dans le corps humain et dans le corps des animaux. Mais le fameux pachon, c'est-à-dire le fameux appareil, vous savez, avec la petite poire qu'on gonfle, le brassard, là, que tout le monde a connu, on allait voir son médecin, eh bien, il ne date que de 1909. Donc, c'est très récent, tout ça. Avant, on ne savait pas très bien comment prendre la pression de façon régulière.
Alors, l'hypertension est un problème majeur de santé publique. Dans vos cabinets et services hospitaliers respectifs, c'est le premier motif de consultation, Fabien Guèze.
En cardiologie, oui. C'est bien 50% de ma patientèle qui est atteinte d'hypertension artérielle.
Jean-Louis Fabiani.
Ah, pour le chirurgien, c'est plutôt les conséquences de l'hypertension que j'ai à traiter. C'est-à-dire que il a été vu par les cardiologues, le patient, et on vient me le confier, moi, lorsque il fait des complications ou qu'il risque de faire des complications graves.
Alors, je rappelle qu'un adulte sur trois est concerné, selon l'OMS, par l'hypertension, et selon l'INSERM, c'est la première pathologie chronique en France.
Oui, elle est d'ailleurs sous-estimée. On dit qu'il y a à peu près 15 millions d'hypertendus en France. La moitié ne sont pas diagnostiqués. Et sur la moitié diagnostiquée, la moitié est bien contrôlée.
Vous confirmez, Alexandra Combe ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un chiffre énorme, un adulte sur trois. Mais c'est vrai que derrière ces chiffres, il y a aussi des situations qui sont assez différentes, finalement.
Alors, quels sont les symptômes de l'hypertension artérielle, Jean-Noël Fabiani ?
Le grand problème, justement, c'est qu'il n'y en a pas, ou très peu, pendant très longtemps. Il peut y en avoir à un certain moment, mais pendant très longtemps, celui qui est hypertendu, il se sent très très bien. Il vit à 200 à l'heure. Et d'ailleurs, un des grands problèmes de la médecine, c'est dès qu'on va le traiter, il va plus être à 200 à l'heure, il va être à 50 à l'heure, il va avoir l'impression de se traîner, d'être fatigué, d'être impuissant, et ainsi de suite. C'est bien le problème de l'hypertension artérielle.
Mais il n'y a pas des signes avant-coureurs, je pense...
Il y a des symptômes caractéristiques, voilà. Bien sûr, mais qui n'ont lieu qu'à peu près chez un patient sur quatre. L'immense majorité n'a pas symptômes, et sinon ce sont les céphalées, les maux de tête, les bourdonnements d'oreilles.
Les saignements de nez également.
Saignements de nez, oui, bien sûr.
Des petits points noirs aussi devant les yeux, des fois ça peut être aussi un signe.
C'est un signe, Jean-Noël Fabiani ?
Oui, c'est aussi les mouches volantes, c'est-à-dire on voit des choses qui lumineuses qui se baladent devant les yeux. Oui.
Mais ça arrive à partir de quel
Ils
seuil
Ça peut arriver sans hypertension.
Ah
aussi,
oui, ça peut arriver sans hypertension aussi.
Mais ça arrive à quel seuil d'hypertension, les saignements de nez, les céphalées, les bourdonnements dans les oreilles.
Extrêmement variable, en fonction des patients. On peut saigner du nez à 160 de tension artérielle systolique, d'autres vont saigner à plus de 200. Quoi.
Alors, vous rappelez, Alexandra Combe, que l'hypertension est un tueur silencieux, un tueur presque parfait.
Oui, tout à fait. En fait, c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de patients hypertendus qui découvrent leur hypertension, mais beaucoup trop tard, au moment de complications graves qui mettent en jeu leur vie. Et c'est le cas dans le documentaire de Philippe, qui lui, en fait, avait effectivement quelques chiffres élevés au cabinet de temps en temps, mais qui ne s'est jamais vraiment inquiété en fait de ces chiffres, et qui a eu un accident extrêmement grave il y a un an, qui l'a conduit aux urgences avec un chiffre de pression artérielle de 27,8 de tension.
Philippe, c'est l'un de vos témoins.
Tout à fait.
Alors, pour dépister l'hypertension, le seul moyen, c'est de la faire vérifier régulièrement chez son médecin ou de pratiquer l'automesure, Jean-Noël Fabiani ?
Alors d'abord, l'un n'empêche pas l'autre. Qu'il faille prendre sa tension à chaque consultation de médecin, c'est bien évident. Maintenant, si on veut la surveiller vraiment sérieusement, eh bien, il va falloir faire de l'automesure. Il y a des appareils tout à fait bien dans le commerce maintenant qui permettent de prendre sa tension.
Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
Oui, c'est très bien montré dans le reportage. Les médecins eux-mêmes le disent. La prendre à un instant T, à une seconde donnée, c'est pas forcément significatif. Il faut la reprendre peut-être 10 minutes après, un quart d'heure après, le patient est arrivé stressé, il était en retard, donc déjà elle est élevée. Alors qu'un quart d'heure après, elle va être probablement plus significative. Alors comment faire dans ce cas déjà en cabinet et encore plus chez soi pour être certain de bien la prendre?
Fabien Guèze. La quasi-totalité de mes patients ont une tension un peu plus élevée au début de consultation par rapport à la fin de la consultation. Les hypertendus comme les non-hypertendus. C'est pour ça qu'il faut être vraiment très vigilant là-dessus. On ne va pas traiter un patient sur une première, une unique prise de tension, évidemment. C'est très important, il y a le fameux syndrome de la blouse blanche, hein, les gens ont un peu plus de tension en tout début de consultation. C'est pour ça qu'il faut, quand on a découvert, on a trouvé des chiffres élevés, comme le traitement d'hypertension, c'est un traitement de longue haleine, hein, il faut vraiment être sûr d'avoir une hypertension. On peut proposer, on en reparlera peut-être de l'automesure ou de la prise de tension chez le patient lui-même.
Oui, alors vous imaginez, quand un patient vient voir le chirurgien cardiaque, il prend immédiatement 4 points de tension en franchissant la porte du cabinet. Donc la tension n'a pas grande valeur quand il arrive dans mon cabinet de consultation.
Je pense que la notion de temps, elle est aussi très importante. C'est-à-dire qu'avant de poser le diagnostic, il faut plusieurs mesures, plusieurs consultations et pas tout de suite se précipiter. Sinon, on peut arriver à des mesures qui ne sont pas standardisées, donc des mesures qui sont fausses en fait.
Alors à l'inverse de l'hypertension, c'est quoi exactement l'hypotension et quels sont les signes, Fabien Guèze?
L'hypotension, c'est lorsque vous avez la tension diminue. Juste pour la petite parenthèse, on est les seuls au monde à dire 13,8, 14,8. On devrait tous dire 140, parce que ce sont des millimètres de mercure.
Sur l'hypotension, c'est quoi le seuil de l'hypotension?
Là aussi, c'est variable en fonction des patients, mais c'est plutôt en dessous de 100 de systolique.
Il y a des signes?
Oui, parfois oui, parfois non. Hein.
Par
on
exemple,
peut avoir, évidemment, s'il y a des signes, c'est évidemment une fatigue, une baisse de vigilance, etc. Mais pas grand-chose non plus, à part cette fatigue.
Alexandre Combe.
En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'on a, d'un côté, si on a trop de tension, trop de pression, on a les organes, donc le cerveau, le rein, le cœur qui souffrent, mais si on n'a pas suffisamment de pression non plus, du coup, les organes souffrent aussi. En fait, on a une sorte de fourchette idéale entre trop de tension et pas suffisamment.
Quelle est la fourchette idéale, Jean-Noël Fabiani?
La fourchette idéale de tension, c'est, il faut avoir 12-7, c'est ce qu'on appelle la tension de jeune fille, c'est l'idéal, hein, c'est parfait. Bon, mais ceci étant, il y a beaucoup de gens qui sont à 12-7, hein, faut être clair, c'est quand même le chiffre habituel.
Allez, nous attendons toutes vos questions et interrogations sur l'hypertension au 01 45 24 7000. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Alexia Lacour, avec l'aide de Nicolas Bauve, et c'est réalisé par David Leprince.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
Joe Dassin, les Champs-Élysées.
Oh, pas dit au major, j'ai que la tête tendue.
Tendue, ouais.
Grand bien vous fasse.
Tendu dedans, détendu dehors, répète.
Tendu dedans, détendu dehors.
Attention, ne pas m'énerver, hein, parce que quand je m'énerve, c'est pas bon à moi, croyez-moi. Hein.
Sur France Inter.
10h22 et nous attendons toutes vos questions sur l'hypertension avec la complicité de France 5 au 01 45 24 7000. Pour vous répondre, deux cardiologues, le professeur Jean-Noël Fabiani et le docteur Laurent Guèze.
C'est l'histoire d'une menace invisible dont le nombre de victimes donne le vertige.
Beaucoup de gens sont touchés par l'hypertension dans le monde et la proportion augmente avec le vieillissement de la population et donc probablement bientôt 1 milliard de personnes dans le monde.
L'hypertension est probablement le premier tueur silencieux.
L'hypertension, cette trop forte pression du sang dans les artères, est responsable d'infarctus du myocarde, d'insuffisance cardiaque et rénale. Elle est aussi impliquée dans un tiers des accidents vasculaires cérébraux.
Extrait du documentaire d'Alexandra Combes, diffusé ce soir sur France 5. Alors, la tension artérielle est un indicateur de risque et surtout un indicateur de risque de mortalité. Fabien Guèze, quels sont les risques de l'hypertension? Le premier risque.
Oui, c'est un circuit fermé, hein, un circuit cardiovasculaire. Donc l'hypertension, l'hyperpression va faire travailler un peu plus le cœur, comme si vous aviez un ballon de foot trop gonflé. Donc le cœur va vouloir lutter, son muscle va s'épaissir, il va donc résister pendant un certain temps, et à un moment donné, le cœur n'a plus de force et il va se dilater. Et c'est comme ça que l'hypertension artérielle se transforme en insuffisance cardiaque.
Jean-Noël Fabiani.
Alors une autre conséquence, c'est que cette pression systolique très forte va entraîner des turbulences dans les artères, et en particulier au niveau des carotides, où il y a une bifurcation. Et le fait qu'elle soit très forte va entraîner des lésions au niveau de la carotide, où va se mettre le cholestérol, puis le calcaire, et entraîner des rétrécissements au niveau des carotides, qui vont être responsables très souvent d'accidents vasculaires cérébraux. Voici un autre cas.
Alors quels sont les risques, les facteurs de risque de l'hypertension? L'âge d'abord, Fabien Guèze?
Oui, il y a des facteurs de risque sur lesquels on ne peut pas lutter, hein. Le sexe masculin.
L'âge d'abord. Pourquoi quand on vieillit, on a un facteur de risque plus élevé?
Ah bah parce que avec le temps, les artères qui sont formées de fibres élastiques, qui lorsque le cœur se contracte, se dilatent et puis se resserrent, eh bien elles perdent leurs fibres élastiques, donc elles durcissent. Si bien que naturellement, quand le cœur se contracte, tchouc, la pression va monter à toute vitesse et on va avoir des systoliques beaucoup plus élevées chez les gens âgés parce que leurs artères sont devenues dures.
Et est-ce que les hommes et les femmes sont égaux face à l'hypertension ?
De plus en plus, puisque les femmes fument, prennent des hormones, elles stressent un peu plus parce qu'elles travaillent plus qu'avant, hein, c'est une constatation. Donc elles rejoignent petit à petit, la mortalité cardiovasculaire est la première cause maintenant.
Mais tout de même, l'hypertension est plus élevée chez les hommes de plus de 50 ans.
Tout est un peu faussé par cette fameuse étude qui s'appelle la Framingham Study.
Rappelez-nous ce que c'est.
Alors, en 1948, les Américains ont décidé de prendre un petit village aux États-Unis et de surveiller toute la population pendant des dizaines d'années. Et ils se sont focalisés sur les facteurs de risque de l'homme de la cinquantaine. Et les femmes, ils s'en sont pas trop occupés. Ils ont eu bien tort, parce qu'on s'aperçoit maintenant que les femmes, elles meurent plus de problèmes cardiovasculaires que de cancer du sein.
Alexandra Combes, dans votre documentaire, on voit surtout des hommes hyper tendus.
Oui, beaucoup d'hommes hypertendus, en effet, notamment Philippe, comme je disais tout à l'heure, du coup, qui lui, si on regarde bien son mode de vie, c'est vrai que c'est un directeur d'une école d'hôtellerie dans le Nord, et il se définissait lui-même comme un épicurien, donc comme on dit, l'hypertension est quand même liée aussi à l'assiette, au mode de vie, très peu d'activité physique, du stress aussi, et puis l'alcool, le tabac, etc.
Pourquoi le poids influe sur l'hypertension, et surtout le surpoids, voire l'obésité ?
Je suis pas sûr que ce soit un facteur de risque très 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 important, moi.
Fabien Guèze, enfin, on dit pourtant que le tour de taille, un certain niveau de tour de taille, influe sur l'hypertension.
Oui, bien sûr. Et tout ça, c'est indirect, évidemment. Lorsqu'on est,
ça s'appelle le syndrome métabolique, ça.
Exactement.
C'est-à-dire que ça a un risque plutôt d'athérosclérose que d'hypertension artérielle. Alors, dedans, il peut y avoir de l'hypertension artérielle, mais c'est un risque d'athérosclérose.
Qui va aggraver l'hypertension. Comme on le disait, les autres facteurs de risque ne sont pas responsables de l'hypertension, puisqu'on sait que l'hypertension est d'origine génétique. Hein. On parle d'hypertension essentielle. Mais les autres facteurs de risque vont aggraver cette hypertension artérielle, puisqu'elles vont entraîner, évidemment, un durcissement des artères, etc. Et leur rétrécissement. malheureusement.
Quel est le poids de l'hérédité d'ailleurs ?
Oh, je crois qu'il est très important. Hein, le poids de l'hérédité. Dans toutes ces maladies cardiovasculaires, on a découvert qu'il était très important.
Hérédité directe, bien sûr. Hein. Pas les grands-parents, ni les oncles, ni les tantes. Hein. C'est père, mère, frère et sœur.
Il y a des familles d'hypertendus ?
Incontestablement, oui. C'est connu.
Alexandra Combe.
Oui, c'est le cas d'ailleurs d'un de mes témoins. Mais finalement, c'est vrai qu'il y a une part génétique qui est certaine. Mais c'est vraiment important, je pense, d'inciter aussi sur la part du mode de vie, du comportement et de l'alimentation. Donc c'est important aussi de dire, oui, il y a une forme de fatalité génétique, mais on peut aussi agir, quoi. Ça, c'est important de le dire.
Notamment pour les hypertensions artérielles modérées, c'est vrai que les dérèglements hygiéno-détectiques de base peuvent soit retarder, soit empêcher l'arrivée d'une hypertension artérielle.
On y reviendra tout à l'heure. Et le rôle du stress dans l'hypertension ?
Le rôle du stress est aussi très important.
Parce que mauvais stress.
Mauvais stress. Qu'est-ce qu'il y a du bon stress ou du mauvais stress ? Il y a du stress. Le stress, eh bien, il se traduit, bien sûr, par une accélération du cœur et par un renforcement du cœur par l'intermédiaire d'hormones. En particulier de cette fameuse hormone qui est l'hormone du stress, qui est l'adrénaline. L'adrénaline, eh bien, ça a été ce qui nous a permis de survivre. Parce que lorsque nous étions attaqués à l'âge des cavernes par un énorme monstre qui nous courait après, il fallait de l'adrénaline. Qu'est-ce que fait l'adrénaline ? Elle accélère le cœur, elle fait monter la pression artérielle. Eh bien, aujourd'hui, on n'a plus l'effort physique qui permet de dépenser cette adrénaline, et quand votre patron vous engueule, eh bien, immédiatement, la pression monte, l'adrénaline est sécrétée, et ça, c'est le mauvais stress.
Est-ce que l'apnée du sommeil peut être un facteur d'hypertension, Fabien Gaze ?
Bien sûr. L'apnée du sommeil, l'apnée du sommeil, ce sont des pauses respiratoires, hein, d'origine évidemment obstructive, hein, de mécanique. Lorsque vous êtes en pause respiratoire la nuit, votre tension peut monter jusqu'à 200.
Bonjour Michel, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous appelez de la Mayenne.
Oui, c'est bien ça.
Alors, vous êtes hypertendu depuis combien de temps ?
Alors, j'ai commencé à être hypertendu à l'âge de 20 ans. Et donc, j'ai aujourd'hui 60 ans. Et ça fait donc 40 ans que je prends un bêta-bloquant pour soigner ma tension, ce qui m'a plutôt bien réussi, sachant que à l'âge de 20 ans, on m'a dit « vous vous soignez, il n'y a pas de souci, et si vous ne vous soignez pas, à 40 ans, vous êtes mort ». Donc j'ai choisi de me soigner.
Et vous aviez une question sur l'impact, je crois, de ces bêta-bloquants sur votre santé.
Quel est l'impact que peut avoir la prise d'un bêta-bloquant pendant 40 ans sur ma santé ? Est-ce que je dois faire des examens particuliers ? Disons que comme je me suis soigné et que ça, j'ai vu le médecin tous les 6 mois depuis 40 ans, on m'a quasiment pas donné d'autres consultations à faire.
Est-ce qu'on peut expliquer d'abord peut-être ce qu'est un bêta-bloquant, Fabien Gaze ?
Un bêta-bloquant, c'est une molécule qui va donc bloquer le bêta-récepteur dans le cœur et les artères et qui va empêcher donc l'augmentation de la pression artérielle.
Sur la question de Michel et sur les conséquences de la prise de bêta-bloquant pendant une quarantaine d'années ?
La preuve, c'est qu'il est toujours là et en bonne forme, j'imagine ?
Très bien.
Voilà, très bonne
forme. Ah oui, tout à fait, c'est un médicament. Les médicaments modernes, les bêta-bloquants modernes, sont très bien supportés, beaucoup mieux supportés que les premiers, comme la vlocardyle.
Fait d'ailleurs que très peu baisser la tension.
Peu baisser la tension. On a mis au point, l'industrie pharmaceutique, que l'on critique toujours, a mis au point quand même des substances remarquables, qui sont très très bien tolérées, que l'on peut prendre 40 ans sans aucun problème. Il y a tout de même, évidemment, quelques petits risques. Toujours, quand un médicament, c'est pas un bonbon, hein. Donc il y a toujours des risques de problèmes secondaires, mais très faibles, et on peut très bien prendre, vous répondre à votre auditeur, son médicament pendant des dizaines d'années sans aucun problème.
Merci beaucoup Michel d'avoir témoigné. Alors est-ce que certains traitements médicamenteux peuvent favoriser une hypertension ? Fabien Gaze.
Traitement médicamenteux.
Ouais.
Enfin, il y a plus de traitements médicamenteux qui, associés aux antihypertenseurs, font baisser la tension. Mais il peut y avoir, bien sûr, certains médicaments, comme l'utilisation abusive d'antibiotiques, peuvent entraîner des hausses de tension.
Ah, il y avait le fameux médicament anti-rejet, heureusement qu'il existe, s'appelle la cyclosporine, mais qui a comme effet secondaire d'entraîner les hypertensions artérielles. Bon, voilà, c'est une conséquence du médicament.
Et surtout les vasoconstricteurs qu'on a trop utilisés pour les rhumes, pour les rhinopharyngites. Mm-hmm. On appelle ça les vasoconstricteurs qui vont aggraver l'hypertension artérielle et qui sont vraiment contre-indiqués chez les hypertendus.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, Alexandra Combe, l'hypertension artérielle varie tout au long de la journée. Et dans votre documentaire, vous vous intéressez aux erreurs de diagnostic.
Oui, ce qui m'a étonné, en fait, c'est l'extrême variabilité de la pression artérielle, c'est-à-dire que d'une minute à l'autre, d'une activité à l'autre, d'un état psychologique à l'autre, on a des variations qui peuvent être extrêmement importantes. Et du coup, du fait de cette variabilité, on peut avoir des erreurs de diagnostic.
Oui, mais alors là, faut être clair, normalement, le bon chiffre de la pression artérielle, c'est celui qui est pris le matin d'une part, le soir d'autre part, après un quart d'heure de repos allongé, et seulement, et au pris aux deux bras, hein, parce que il peut y avoir des tensions pour des raisons artérielles différentes à chacun des bras. Donc, il y a quand même des règles, hein, on ne parle d'hypertension que lorsqu'on a, on a mesuré la pression artérielle dans ces conditions-là.
Heureusement d'ailleurs que la tension artérielle varie au cours de la journée. Hein. Elle permet de faire face aux efforts, elle augmente pendant la digestion, elle augmente quand vous vous énervez, c'est pour faire face vraiment aux agressions. Hein.
Alexandra Combe, le problème c'est que ces erreurs de diagnostic peuvent conduire à prendre des médicaments pour rien.
Oui, du coup ce qui est ce que je me suis aperçue donc dans le documentaire, c'est qu'en fait il y a de nombreuses erreurs du diagnostic par rapport à justement cette hypertension blouse blanche, cet effet blouse blanche. Et dans le documentaire, on apprend qu'il y a près de 3 millions de personnes du coup qui seraient diagnostiquées et traitées inutilement, probablement qui prennent des médicaments à tort.
Jean-Noël Fabiani, vous dodelinez.
Oui, enfin, c'est un chiffre qui est bien difficile à évaluer comme ça. Moi, écoutez, on reproche beaucoup aux médecins d'avoir trop traité les gens. Moi, je vois le résultat des choses, c'est qu'en 30 ans, la population française a gagné 10 ans de survie. Donc, c'est pas par hasard. Hein. Si les cardiologues ont donné des médicaments anti-hypertenseurs, ils ont bien fait, parce que grosso modo, ça s'est traduit en termes de santé publique par un gain considérable.
Mais Alexandra Combe, vous revenez sur le fait que l'Association des cardiologues américains a décidé d'abaisser le seuil de l'hypertension à 13,8 et près de la moitié des Américains est devenue hypertendue.
Oui, c'est ça, plus de 32 millions d'Américains supplémentaires sont devenus hypertendus parce qu'en fait, on a décidé tout simplement d'abaisser en fait le seuil et on s'est fondé sur une étude américaine qui s'appelle l'étude Sprint qui est sortie en 2015. Et du coup, en fait, en déplaçant finalement ces mathématiques, on a une augmentation du nombre de personnes qui sont concernées. Alors après, c'est pas forcément de les mettre sous traitement tout de suite, mais c'est ça le risque aussi, quoi. C'est-à-dire de trop traiter de personnes.
Sans être trop démago, quelle est la pression de l'industrie pharmaceutique dans cet abaissement du seuil de l'hypertension?
Ça, c'est difficile à dire, mais d'après les médecins, même les médecins américains que j'ai interviewés, non, mais je crois qu'il y a vraiment une envie d'avoir une médecine qui est préventive, qui est plus agressive. Et on croit vraiment aux États-Unis que du coup, c'est une question de santé publique.
Alors, bien sûr, on va pas comparer le patient français au patient américain, qui est 15 fois plus obèse que le patient français. Évidemment qu'on doit baisser les seuils. On dit toujours, plus vous avez des facteurs de risque, plus votre tension doit être basse. Par exemple, le diabétique, il ne doit pas avoir 14 ou 140, mais il doit avoir 130, voire même 120 tensions.
Jean-Noël Fabiani.
Je vais tout à fait dans ce sens-là. D'ailleurs, c'était un des grands résultats de la fameuse Framingham Study qui montrait que les facteurs de risque ne s'additionnaient pas seulement, mais qu'ils avaient un effet exponentiel les uns par rapport aux autres. Donc le diabétique, évidemment, mais pas que le diabétique, le stressé, le tabagique, celui qui a du cholestérol, tout ça intervient comme des facteurs de risque de la maladie athérosclérose.
Alors j'aimerais qu'on revienne sur les principales complications potentiellement mortelles de l'hypertension artérielle. D'abord, l'accident vasculaire cérébrale, l'AVC, qui a causé la mort hier du comédien Luc Perry, le célèbre Dylan de la série Beverly Hills. C'est quoi un accident vasculaire cérébral, Fabien Guez?
Est-ce que je peux revenir juste dire un mot sur ce que... Non.
Allez-y.
Parce que vous avez parlé de gens qui sont surtraités.
Oui.
Faut faire très attention, parce qu'en France, le principal problème, c'est la non-observance. Donc il y a beaucoup de patients qui risquent de ne plus prendre leur traitement quand on leur dit qu'ils sont surtraités.
Sur les complications potentiellement mortelles de l'hypertension artérielle, l'AVC.
Comme Jean-Noël l'a dit tout à l'heure, donc l'hypertension artérielle va entraîner évidemment le durcissement des artères qui vont se rétrécir, va entraîner aussi, lorsque la pression est trop haute dans une artère, l'artère va se rompre et peut entraîner donc une hémorragie cérébrale.
Absolument. Dans le cerveau. C'est les deux grands risques. C'est d'un côté l'accident parce qu'il n'y a pas assez de sang qui arrive au cerveau ou qu'il y a une embolie dans le cerveau, et l'autre parce que les petites artères se rompent à l'intérieur du cerveau et vont entraîner un accident vasculaire cérébral. Et d'ailleurs, un des grands problèmes en urgence, ça va être de distinguer ce qui est dû à une hémorragie et ce qui est dû à une absence d'irrigation du cerveau.
Parmi les autres risques importants, l'insuffisance cardiaque. Expliquez-nous ce qu'est l'insuffisance cardiaque, Fabien Guèze.
Ben c'est lorsque le cœur, la pompe, n'a plus assez de force pour se contracter, envoyer le sang jusqu'au fin fond des organes.
Alors évidemment, c'est une maladie terrible parce que quand vraiment l'insuffisance cardiaque est arrivée au maximum, qu'il n'y a même plus de médicaments qui permettent de l'aider, eh bien il n'y a plus qu'une solution, c'est quand même la transplantation cardiaque.
Autre risque mortel évidemment, l'infarctus du myocarde.
C'est la même maladie, là aussi. Lorsqu'une artère cérébrale se referme, c'est l'AVC. Lorsqu'une artère coronaire, l'artère qui irrigue le cœur, se referme, ou quasiment se referme, c'est l'infarctus du myocarde.
Rappelez-nous les signes, selon que l'on soit un homme ou une femme, c'est pas les mêmes signes, Fabien Guèze.
Alors le problème chez la femme, c'est au deuxième degré, c'est que c'est vrai que les signes sont beaucoup plus divers et variés chez la femme. Ça peut être une fatigue subite, une douleur abdominale.
Des nausées.
Des nausées, mais enfin, il faut faire vraiment confiance au sixième sens du cardiologue qui peut, parce qu'on va pas quand même hospitaliser toutes les femmes qui ont mal au ventre ou qui ont une baisse subite de leur état.
Pourquoi l'hypertension complique l'insuffisance rénale?
Là aussi, c'est exactement la même chose. Ce sont les artères rénales qui sont là aussi intéressées. C'est exactement la même physiopathologie.
Absolument, et donc comme elles se serrent, en plus en se serrant, elles entraînent la production d'une hormone qui s'appelle la rénine, et cette rénine a tendance à faire monter la pression artérielle. Et donc il faut, dès qu'on a découvert un vrai rétrécissement au niveau d'une artère rénale, il faut essayer de dilater cette artère rénale avec un petit ballonnet pour éviter que la rénine ne continue à entretenir.
Parce que
c'est un cercle vicieux, parce que le rein, lui, il est intelligent quelque part. Quand il n'y a pas cette sang qui arrive du fait du rétrécissement, lui il sécrète une hormone en disant montez la pression, j'ai besoin de plus de sang. Et donc le fait qu'on monte cette pression, va entraîner le cercle vicieux de l'hypertension artérielle.
Alors l'hypertension peut également favoriser des maladies neurodégénératives type Alzheimer. J'ai lu ça le journal Fabiani.
Alors quelques études ont montré que si évidemment tous les hypertendus n'allaient pas avoir un Alzheimer, c'est vrai que les gens atteints d'Alzheimer ont un peu plus d'antécédents quand même d'hypertension artérielle.
Là, ne faisons pas de confusion. Il y a la maladie d'Alzheimer qui est très particulière, qui est une maladie qui commence chez les gens relativement jeunes. Puis il y a une autre maladie beaucoup plus banale qui s'appelle la démence sénile, qui est liée au fait à la destruction progressive de toutes les petites artères du cerveau. Et ça c'est très favorisé par l'hypertension artérielle. Mais c'est pas l'Alzheimer à proprement parler. C'est ce qu'on appelle encore la démence sénile. Donc l'Alzheimer, c'est quand même un peu particulier comme cas pathologique.
Allez, il est temps de retrouver les choses vues du psychiatre François Lelore.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Choses vues.
Et ce sont vos premières choses vues, François Lelore?
Absolument, ma tension monte un peu d'ailleurs. Et alors, quand j'ai appris que le thème de l'émission de ce matin était l'hypertension, je me suis réjoui. Car pour un psychiatre, comment dans le mot hypertension ne pas entendre le mot tension? Ah, me disais-je, que voilà un thème où je suis sûr de pouvoir donner de bons conseils. Pour ne pas être hypertendu, évitez d'abord d'être tendu. Et j'allais vous recommander de vous relaxer, de méditer, de changer votre vision des choses, de relativiser, d'éviter les conflits et de pratiquer la bienveillance. Tout ce que nous, les psys, savons recommander à nos patients et à nos éditeurs. Suivez cette voie d'apaisement, allais-je dire, et ainsi vous verrez votre pression artérielle diminuer. Et ce sera une bonne nouvelle, puisque des chiffres bas au tensiomètre sont un facteur de bonne santé et de longévité. J'étais donc assez content de montrer une fois de plus l'utilité de ma discipline, mais j'ai quand même voulu vérifier si ce que j'allais dire était vrai. Ça m'arrive parfois. Et je me suis plongé dans quelques longs articles écrits par des cardiologues. Car l'avantage d'avoir fait médecine, c'est qu'un psychiatre comme moi arrive à comprendre au moins la moitié d'un article écrit par un cardiologue. Je ne sais pas d'ailleurs si la réciproque est vraie. Et au final, j'ai plutôt été déçu quant au rôle du mental dans l'hypertension artérielle. Certes, j'ai appris que si vous avez tendance à être impatient, avoir l'esprit de compétition, si vous êtes irritable et vivez dans le stress, vous augmentez un peu le risque d'avoir des chiffres tensionnels trop élevés. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des gens très stressés qui gardent une pression artérielle de jeune fille. C'est vrai pour ceux qui ont déjà une tendance à l'hypertension. De même que si vous souffrez d'asthme quand il y a de la pollution, c'est déjà parce que vous aviez une tendance à l'asthme. Donc mes conseils et ceux de mes collègues psy ne sont pas inutiles. Vous avez des chances de diminuer un peu votre pression artérielle en vous efforçant de mener une vie plus apaisée. Mais si vous êtes hypertendu, cela ne suffira en général pas. Et je vous recommanderai avant tout d'écouter votre médecin généraliste ou votre cardiologue. Ils vous expliqueront comment ramener votre pression artérielle à la normale, ou en général en perdant du poids et en prenant un médicament tous les jours. Cette perspective n'est pas très exaltante, je sais. Et c'est justement pourquoi nous négligeons de faire vérifier notre tension artérielle. Nous préférons rester des malades qui s'ignorent. Et c'est là que je vous encouragerai à travailler un peu votre mental, à regarder la réalité en face. Voyez, j'ai quand même trouvé un conseil de psy à vous donner.
Les choses vues de François Lelor. Commentaire de nos deux cardiologues, Jean-Noël Fabiani.
J'ai beaucoup apprécié le fait que le psychiatre peut comprendre 50% d'un article de cardiologie, mais que le cardiologue, c'est sûr, aura beaucoup plus de mal à comprendre un article de psychiatrie.
Et je suis assez étonné sur le fait que le stress soit pas si important que ça dans l'hypertension artérielle. Non, c'est une idée reçue,
oui,
Fabien Guez.
Vous avez parfaitement raison. Celui qui est hypertendu, de toute façon, stressé ou pas, il sera quand même hypertendu. Pendant le stress, ça peut amplifier les choses, mais moi qui suis relativement speedé, j'ai 10 de tension et 45 de pulsation, donc...
Allez, vous pouvez voir ou revoir en vidéo sur la page Facebook de France Inter les choses vues de François Lelor. Dans quelques instants, on se demande comment soigner et prévenir l'hypertension. 01 45 24 7000.
Ton boulot s'en balance, je voudrais qu'on se tire en vacances, mater des séries toute la nuit, sous réserve qu'il y ait du wifi. À nous les correspondances, vol de nuit sans turbulence, je veux te voir tout dépenser, dans ces souvenirs à fabriquer, la seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, compter les vagues se casser, sous réserve qu'il y ait des vagues. La vie c'est pas qu'une école, t'es même pressé quand tu picoles. Laisse de côté ton agenda pour passer du temps avec moi. J'écrirai le mot d'absence, convalescence, port de plaisance, semaine pour s'arrêter, maintenant qu'on fait plus qu'avancer, la seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, regarder les gens passer, sous réserve qu'il y ait des gens, la seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, voir le soleil se lever, sous réserve qu'on soit rêvé. Laissez le temps se défiler, y'a rien de mieux pour la santé. Je te regarderai t'habiller, puis on ira prendre un café. C'est pas des plans sur la comète, un instant sur la planète, pour oublier qu'il faudra rentrer, si le vol est pas annulé, la seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, regarder les gens passer, sous réserve qu'il y ait des gens, la seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, le soleil se levait, sous réserve qu'on soit réveillé.
Séverin interprété en vacances.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
11h moins le quart et nous attendons toutes vos questions sur l'hypertension au 01 45 24 7000.
Philippe se croyait en parfaite santé
jusqu'à son accident cardiaque il y a un an. Ce jour-là, il commence à cracher du sang et aux urgences, il frôle la mort avec une tension extrêmement élevée.
J'arrive dans la salle où les infirmières décident de prendre ma tension, c'est la première chose qu'ils font. Le premier tensomètre pète. Voilà, c'est pas une légende, c'est ce qui est véritablement arrivé. Ils reprennent ma tension une deuxième fois et là, le chiffre s'affiche de 27,8 de tension. Et puis là, ne bougez pas, panique à bord, ils appellent les équipes de déchocage et puis meuvent la partie. Mais donc, pour répondre à votre question, non, on s'y attend absolument pas. Et on sait même pas qu'on fait de la tension, d'ailleurs. En fait, on est énervé, point. C'est tout. On est énervé, on n'est pas bien, on est fatigué, mais c'est le stress, c'est le boulot, c'est la vie. C'est tout, mais c'est jamais une maladie, en fait. On est indestructible.
Extrait du documentaire Hypertension, quelle solution diffusée ce soir sur France 5. Bonjour Hélène, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Hélène, je me permets de donner votre âge. Vous avez 67 ans et vous êtes atteinte d'hypertension. Comment est-ce qu'on a détecté votre hypertension, Hélène ?
On a détecté mon hypertension simplement par un contrôle chez le médecin généraliste.
Il y a combien de temps ?
Il y a 8 ou 10 ans à peu près.
Mmh. Alors, c'est quoi votre quotidien de femme hypertendue ?
Alors, d'abord, je dois dire que j'ai essayé de me passer de traitement. Donc, pas mal de sport, de la méditation, pas de sel dans l'alimentation, une alimentation très saine. Mmh. Et en plus, quand j'ai de la tension, je le sais. C'est que je suis assez à l'écoute de mon corps et je sens que j'ai de la tension. Et j'ai un tensiomètre à la maison qui me permet de prendre ma tension, de surveiller. Donc il m'arrive, d'après le cardiologue, le médecin généraliste, j'ai une tension très instable, en fait. Je monte à 15 ou 16.
Est-ce que vous suivez un traitement médicamenteux ?
Alors, j'ai suivi pendant quelques années un traitement médicamenteux à la Provel 75, mais je le prenais seulement quand j'avais des poussées de tension. Mmh. Et là, récemment, mon médecin généraliste a réussi à me convaincre de le prendre tous les jours pendant un mois pour voir si la tension se stabilise.
Alors, vous dites, votre médecin a essayé de vous convaincre. Pourquoi étiez-vous réticente, Hélène ?
Parce que je suis en général assez réticente à prendre des médicaments. J'essaie toujours de trouver d'autres voies pour me soigner. Et dans l'ensemble, ça marche pas mal. Voilà.
Fabien Guèze.
Alors, on est tous d'accord pour dire qu'on n'aime pas les médicaments, mais on aime un peu moins, encore moins les maladies. C'est justement pour cela qu'on donne des médicaments. Mmh. Alors, il y a deux, trois contre-vérités quand même. Le sport, c'est bon pour la santé. Mais si vous avez une tension de base de repos qui est au-dessus de 140, il ne faut pas faire de sport, puisque si vous êtes à 160, 170 au repos, dès que vous allez faire un effort, vous allez passer à 220, 230 ans. Donc, il faut être sûr de ne pas avoir d'hypertension au repos pour pratiquer du sport. Le sport ne va pas, comme on dit, le sport ne fait pas maigrir, le sport ne fait pas baisser la tension. C'est excellent pour la santé, mais à condition d'être sur un organisme de base normal. Donc c'est très important, on ne va pas dire j'ai de l'hypertension, donc je vais faire du sport, ça va me baisser ma tension. Ça c'est très important. La deuxième chose, c'est que l'hypertension, le traitement de l'hypertension, c'est un traitement sérieux, c'est pas anodin, on ne peut pas prendre un traitement à la carte. Soit on le prend, soit on ne le prend pas. Après, c'est au médecin de décider s'il doit diminuer, arrêter, augmenter le traitement.
Quels sont les traitements contre l'hypertension, Fabien Guèze ?
Les médicaments contre l'hypertension ? Il y a différents types de produits médicamenteux. Évidemment, toujours sur une hypertension qui n'est pas isolée. Il y a des médicaments qui vont traiter l'hypertension artérielle, qui vont aussi être efficace sur d'autres pathologies. Mais pour l'hypertension artérielle, c'est évidemment les médicaments de base, les diurétiques, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques.
Quels sont les effets secondaires ? Parce qu'il y a beaucoup, voilà, on voit la réticence d'Hélène à prendre des médicaments anti-hypertenseurs.
Il y a plus d'effets secondaires de l'hypertension artérielle que d'effets secondaires des médicaments. Quand un médicament est bien prescrit par un médecin digne de ce nom, un cardiologue digne de ce nom, il y a très peu d'effets secondaires. Maintenant, il y aura toujours une personne sur 1000 qui ne va pas supporter un traitement, quel qu'il soit, même un placebo. Donc, il faut faire très attention, il faut suivre le patient. Jean-Noël
Fabien. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours un problème avec le traitement de l'hypertension artérielle. On a un patient qui est à 200 à l'heure avec son hypertension artérielle, et le traitement, qu'on le veuille ou non, va le ramener à 50 à l'heure. Donc il va se sentir toujours un peu fatigué. Il va dire, je me sens finalement, je me sens bien plus fatigué que lorsque je ne prenais pas de médicaments. Et il faut absolument réussir à le faire adhérer à ce traitement, parce que, entre guillemets, sans employer les grands mots, c'est quand même sa survie à long terme.
Merci beaucoup Hélène pour votre témoignage. Missy sur notre page Facebook nous demande, je me pose des questions sur l'efficacité des halters tensionnels posés plusieurs heures. J'ai eu plusieurs halters tensionnels pendant des périodes où je n'étais plus sous traitement. À chaque fois, l'hypertension était confirmée. Or, la prise de tension par halter, notamment la nuit, est stressante. Est-ce que ça influe sur les chiffres? Rappelez-nous ce qu'est exactement un halter tensionnel.
Un halter ou une MAPA, mesure ambulatoire de la pression artérielle, c'est un petit appareil. Un brassard que vous allez porter pendant 24 heures et il va vous prendre à peu près 150 fois dans la journée de la tension. Les prises de tension sont plus fréquentes la journée que la nuit, puisque en général on a moins de tension la nuit que le jour. Même si certains sont gênés, en général les gens dorment pendant le halter, il n'y a pas d'incidence particulière.
Bonjour Christelle, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Paris, question très précise à nos invités.
Oui, on dit que l'alimentation est le premier médicament, donc j'aimerais savoir si on peut faire baisser son hypertension par l'alimentation, et si oui, qu'est-ce qu'on doit manger?
Très bonne question. Eh bien, avec nous, le docteur Catherine Lacronière, bonjour. Bienvenue, vous êtes l'une des expertes éclairées de cette émission, vous êtes médecin nutritionniste. Oui, alors, est-ce que l'alimentation peut permettre de faire baisser la tension artérielle?
Alors l'alimentation est absolument indispensable dans la prise en charge de l'hypertension avec et sans médicament. Tout dépend de la tension artérielle du patient. Et cette alimentation, eh bien, il faut qu'elle rentre dans le quotidien des patients. Il y a une alimentation spécifique qui s'appelle le régime DASH.
Expliquez-nous.
D-A-S-H, ouais. Qui est, on peut traduire par approche diététique pour stopper l'hypertension artérielle. C'est peut-être un petit peu présomptueux, en tout cas pour la limiter. Et cette alimentation est proche d'une alimentation végétarienne méditerranéenne, très riche en fruits, en légumes. Mais il y a également des protéines. La distingue de l'alimentation méditerranéenne, c'est qu'il y a des produits laitiers, écrémés ou semi-écrémés. En revanche, on propose de limiter la viande rouge, ainsi que tout ce qui est gras et sucreries, dont les poissons sucrés.
Quel est le menu?
Et puis, il y a le sel.
Quel est le menu? On va revenir sur le sel, mais quel est le menu idéal pour vous, aller à déjeuner ou à dîner, quand on est hyper tendu, Catherine Lacronière?
Alors d'abord, je trouve qu'il faut cuisiner à la maison, si c'est possible, parce que tous les plats cuisinés, malheureusement, sont une source cachée de sel. Donc si on peut cuisiner à la maison, eh bien on va faire des légumes, pour le plat principal, autant de légumes que l'on veut, en utilisant plutôt que le sel, bien du poivre, des herbes et toutes les épices. On rajoute des protéines, par exemple du poisson, parce que dans le poisson, comme le poisson gras, il y a le saumon, par exemple, il y a des oméga 3. Et puis
les légumineuses également, Catherine Lacronière, les légumineuses également, les pois chiches, les lentilles, etc.
Bien sûr, c'est la troisième partie de mon assiette, c'est la fameuse assiette Peace and Love avec des légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, tout ça arrosé par exemple d'huile d'olive comme dans le régime méditerranéen.
Alors Fabien Guez, quel est le rôle exact du sel dans l'hypertension?
On l'a dit tout à l'heure, c'est mécanique, hein, le sel ça retient l'eau, donc plus vous mangez salé, plus vous avez de l'eau dans les artères, comme c'est un circuit fermé, la pression monte.
Jean-Noël Fabiani, c'est un peu discuté, hein, cette place du sel dans l'alimentation de l'hypertendu.
C'est-à-dire qu'à un moment, on a proposé des régimes sans sel. Il faut pas faire un régime sans sel. Il faut un régime peu salé, grosso modo. Il faut saler en cuisine, mais pas saler sur la table. Pour être simple, hein, il faut pas resaler le fromage de chef, quoi. C'est inutile, quoi. Il y a des gens qui salent tout. Eh bien, incontestablement, la quantité de sel que nous mangeons actuellement en France, par exemple, est considérable, beaucoup trop important, qui dépasse totalement nos besoins.
Quelle est la dose de sel à ne pas dépasser, Catherine Lacronière?
Mais aujourd'hui, nos besoins sont environ de 6 grammes de sel par jour. Or, en France, comme d'ailleurs dans tous les pays occidentalisés, on en mangerait trop, on serait entre 9 et 12 grammes par jour.
Déjà, si on évite l'alimentation ultra transformée, c'est déjà une grande source de sel, vous l'avez dit Catherine Lacronière, qu'on élimine de son assiette, surtout quand on est hypertendu.
Tout à fait, mais ça n'est pas tout. Il faut savoir que le pain est un grand vecteur de sel. Alors quand on est très hypertendu, on va soit limiter un peu sa consommation de pain, soit pourquoi pas manger un pain un peu moins salé. Et puis tout ce qui est charcuterie, fromage, les sauces.
Tout ce qui est bon, quoi, Catherine Lacronière.
Soja, mais ouais. Aussi à la moutarde. Et par exemple, on trouve aussi du sel dans les soupes préparées.
Et aussi dans les eaux minérales, l'air de rien. Il y a parfois certaines eaux minérales, notamment salabules, les gazeuses, qui ont des quantités de sel considérables. Et pour des gens qui boivent de l'eau, c'est bien de boire de l'eau, mais ça peut aboutir dans la journée à une grande consommation de sel.
Et les fruits de mer, évidemment.
Catherine Lacronière, vous le confirmez, attention à la bedaine autour de taille qui ne doit pas dépasser, je crois savoir, la moitié de la taille en centimètres. C'est-à-dire que si vous êtes un homme et que vous mesurez 1m80, votre tour de taille ne doit pas dépasser 90 cm. Vous confirmez, Fabien Gaz,
Oui, tout à fait. Ouais.
Donc, d'autres conseils peut-être, Catherine Lacronière?
Alors, au niveau de l'alimentation, essayez de manger varié. Surtout, c'est important. Il ne faut pas que ce soit un régime restrictif. Ce qu'on pouvait reprocher au régime d'âge dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que il n'y avait pas assez de graisse, justement, parce qu'il ne faut pas limiter toutes les graisses. Il faut laisser les graisses des oléagineux, les graisses d'origine végétale, les graisses des poissons, parce qu'un régime restrictif, eh bien, on ne le suit pas. Mmh. Et c'est bien ça le problème. Si on le laisse tomber, on aura la tension va remonter et puis on va oublier ses bonnes résolutions, on va recommencer à saler. Donc il faut manger varié, manger de tout et utiliser les fameuses herbes et épices qui vont donner du goût et qui permettront de limiter l'utilisation de sel.
Merci beaucoup docteur Catherine Lacronière pour vos conseils. Marie-Laure Zonshain, Femme Actuelle.
Oui, petite question, ennemi ou pas, François Leleur, vous avez bu un café, oh là là, auriez-vous dû, est-ce qu'il faut limiter la consommation du café?
Très bonne question.
Le café fait très 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 peu monter la tension. Il accélère le pouls, évidemment. Donc le café est très bon pour la santé, sauf évidemment chez les gens qui ne supportent pas le café. Mais le café fait très peu monter la tension.
Est-ce qu'il est vrai qu'il faut éviter la réglisse ou le réglisse quand on est hyper tendu?
Oui, absolument.
Catastrophe.
C'est une catastrophe. Réglisse,
Alors, il faut savoir qu'on retrouve énormément de réglisse dans les tisanes bio. Je citerai pas les marques, mais quand vous allez dans un magasin bio, que vous regardez les tisanes, les mélanges de tisanes bio, il y a souvent beaucoup de réglisse et donc il faut faire attention à ça.
Tous les étudiants qui voulaient se faire réformer, prenaient du réglisse pendant 5 jours, ils avaient une tension qui montait à 20.
Se faire réformer du service militaire, que nous avons bien connu autour de la table. Vous aussi, Marie-Laure Zonshain, vous avez votre service. Alors, sur l'activité physique, il y a des questions qui reviennent. Est-ce que la marche rapide notamment, est-ce que c'est bon pour réguler sa tension artérielle?
Alors, je crois qu'il n'y a pas de discussion là. C'est bon. Autant le sport, parce qu'il suppose un effort considérable et donc fait monter la tension, autant l'exercice, lui, est bon. C'est-à-dire que marcher, c'est l'exercice par définition, éventuellement nager, sont des très bons exercices qui, au contraire, il semble bien qu'avec le temps, ce soit un des meilleurs moyens pour limiter en particulier la production d'adrénaline, donc limiter aussi l'hypertension artérielle.
La marche, bien sûr, est le meilleur de tous les sports. La marche, évidemment, soutenue, pas le lèche-vitrine rue de Passy, mais la marche soutenue, c'est le meilleur des sports.
Rue de Passy, vous êtes très chic, Fabien Gaz.
Au moins 20 minutes.
Pour les auditeurs qui habitent en dehors de Paris, c'est une rue chic du 16e arrondissement de Paris. Conseillez-vous, tout de même, pour terminer, de mesurer sa tension artérielle à la maison, et faut-il investir dans un appareil d'automesure, Fabien Gaz?
Oui, bien sûr, puisqu'on l'a dit, il y a le fameux syndrome de la blouse blanche. On n'a pas vraiment toujours la même tension artérielle au cabinet du médecin et chez soi. Donc ça peut être bien de prendre sa tension à condition de la prendre à certains moments. Par exemple, le matin au réveil, avant de poser les pieds par terre.
Et le soir,
à 18-19h.
Merci beaucoup Fabien Gaez, je signale votre ouvrage en poche, Comment avoir une crise cardiaque, c'est évidemment un titre ironique, Jean-Noël Fabiani, L'incroyable histoire de la médecine, c'est aux arènes, merci beaucoup Alexandra Combes, votre documentaire sera diffusé ce soir dans l'excellente émission Enquête de santé sur France 5 à 20h50, demain on verra comment apprendre aux jeunes et aux moins jeunes à moins consommer en exerçant notamment un regard critique sur les sortilèges du marketing et de la publicité, et vous, comment faites-vous pour gérer le budget familial sans céder au désir consumériste de vos enfants et de vos ados? 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Maxime Ingrand et Pierre-Yves de Roland.